On a un élève qui est un élève tout à fait ordinaire.
J'ai vécu comme une belle expérience et une expérience positive pour la classe.
Les troubles psychiques. Un entretien réseau Canopé avec Mario Speranza, pédopsychiatre et professeur à l'Université de Versailles.
Monsieur Speranza, qu'est-ce que les troubles psychiques ?
Alors, les troubles psychiques, c'est un ensemble d'affections qui peuvent s'exprimer de manière très différente et qui, dans l'ensemble, entraînent des difficultés dans l'adaptation de l'enfant, de l'adolescent, dans sa vie quotidienne, que ce soit à l'école ou à la maison. Ça peut s'exprimer sur un versant plus émotionnel, ou soit un versant plus comportemental. Dans les deux cas, ce qu'on note, c'est une souffrance que l'enfant et l'adolescent vit et qui peut partager et faire vivre à l'environnement dans lequel il se trouve.
Est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément quelles sont les manifestations des troubles psychiques chez les jeunes ?
Alors, les troubles les plus fréquents qu'on rencontre chez les jeunes sont les manifestations anxieuses et les manifestations dépressives, qu'on retrouve chez les adolescents à tout âge et qui sont les plus fréquentes et peuvent se manifester de manière différente. Également, on peut facilement rencontrer des troubles alimentaires, des troubles qui concernent une réduction de l'alimentation, comme l'anorexie, ou des difficultés à maîtriser l'alimentation, comme dans le cas de la boulimie, avec un excès d'alimentation par crise. On peut rencontrer également des problèmes concernant les consommations de produits, notamment que ce soit l'alcool ou le cannabis. Ce sont deux modes de consommation relativement fréquentes à l'adolescence, de façon ponctuelle, dans certains cas, de façon plus régulière, et c'est là que c'est bien plus inquiétant. L'anxiété et la dépression sont souvent présents de façon simultanée. Chez les adolescents, il est plus difficile de trouver des tableaux purs ou séparés. Souvent, les manifestations d'anxiété et de dépression sont associées. Si on prend davantage la dimension anxieuse, cela peut se manifester sous le mode d'une anxiété vis-à-vis des situations sociales, ce qu'on appelle une anxiété sociale, une phobie sociale, la peur de se retrouver devant les autres ou en présence des autres, ce qui est évidemment très problématique dans le contexte scolaire. Mais cette même anxiété peut se manifester de façon plus générale dans toutes les situations, avec une appréhension importante de l'avenir, une appréhension importante de tout ce que l'adolescent peut rencontrer au quotidien, voire se focaliser sur le scolaire, avec une anxiété qu'on appelle de performance, avec une inquiétude face au contrôle ou aux situations d'évaluation, qui peut aboutir dans certains cas à un certain retrait, voire une inhibition, une difficulté à produire, à montrer les connaissances que l'élève peut avoir.
Alors, vous nous parlez d'un certain nombre de manifestations, mais parfois ces manifestations existent de façon ponctuelle chez des jeunes et pourtant ils n'ont pas de troubles psychiques.
Vous avez tout à fait raison. Il est très important de rappeler que si des symptômes de manifestation de souffrance sont présentes, elles peuvent être tout à fait ponctuelles, de courte durée, d'intensité limitée. Et là où on peut commencer à être davantage inquiet pour l'adolescent, c'est quand ces manifestations deviennent plus stables, plus intenses, plus répétitives, et commencent à avoir un impact sur l'adaptation de l'adolescent dans sa vie de tous les jours, l'école, les relations avec les uns et les autres. Donc ces manifestations deviennent plus envahissantes et donc avec des conséquences sur la vie de l'adolescent. Par exemple, l'anxiété est un événement, c'est quelque chose qui est fréquente chez les adolescents, dans les liens, les changements des relations avec leur père, les nouveautés des liens sociaux. Mais à certains moments, cette anxiété peut devenir problématique, rendant difficile à l'adolescent d'aller à l'école, jusqu'à un refus anxieux de l'école qui devient un lieu d'inquiétude excessive. Et donc, ça a un impact sur la scolarité de façon directe. De la même manière, les manifestations dépressives, les adolescents connaissent souvent des fluctuations au niveau de leur humeur. Ils sont parfois un peu opposés de façon identitaire. Ils construisent leur identité aussi, essayant de se démarquer vis-à-vis des adultes. Ça, c'est des manifestations qu'on retrouve facilement. Par contre, quand cette tristesse commence à être plus importante, à empêcher l'adolescent d'aller à l'école ou d'investir des choses auxquelles il était vraiment intéressé auparavant, mais là, on est davantage inquiet. Et on sait que ces manifestations dépressives, dans certains cas, peuvent s'associer à des pensées autour de la mort, voire à des idées suicidaires. Là aussi, ces manifestations sont relativement fréquentes à l'adolescence de façon ponctuelle. C'est la confrontation avec les limites aussi et les changements. Ce qui peut nous inquiéter, c'est quand ces idées commencent à devenir plus importantes, répétitives, et l'adolescent se sent un peu enfermé dans une impasse. Et c'est là qu'il est important de ne pas laisser l'adolescent seul, mais au contraire, essayer d'instaurer un dialogue. Parce que l'un des clés par rapport à ces difficultés, c'est la possibilité d'avoir des interlocuteurs, échanger et sortir de ce sentiment d'impasse.
Quelles sont les autres difficultés fréquemment rencontrées justement dans la scolarisation de ces jeunes ?
Alors, l'anxiété et la dépression. Alors, ce qui est important de préciser dans le cas de la dépression, notamment dont on peut voir l'aspect le plus évident sous la forme d'une certaine tristesse que l'adolescent peut montrer. Mais souvent, les adolescents qui présentent une souffrance dépressive peuvent manifester cette souffrance par un désinvestissement de la scolarité, une difficulté à investir la scolarité, les apprentissages, voire les relations sociales qui ont une place importante dans la vie des adolescents à l'école, et donc empêcher l'adolescent de s'investir, d'apprendre, d'être dans une évolution de sa personne, un lien avec les connaissances que l'école peut produire, peut proposer. Alors, donc d'un côté, elle peut se manifester la dépression sous ce mode plutôt de difficulté à investir les apprentissages, peut se manifester aussi par une opposition aux apprentissages ou au contexte scolaire, aux enseignants. On voit certains élèves qui manifestent leur tristesse avec des attitudes un peu hostiles vis-à-vis de l'environnement. Et c'est très important de moins se syntoniser sur ce comportement un peu de provocation ou d'opposition, mais plutôt sur la tristesse ou la souffrance qui est derrière. Et quand on arrive à se syntoniser sur cette tristesse qui est derrière, on arrive beaucoup plus facilement à les aider à évoluer plutôt que augmenter leur tendance à être dans cette confrontation un peu avec l'environnement.
Vous nous parlez des difficultés pour rentrer dans les apprentissages, mais est-ce qu'également les troubles psychiques peuvent avoir des conséquences, des effets sur la construction d'une image positive de soi ?
Bien sûr. L'image de soi se construit dans le parcours de développement d'un enfant et d'un adolescent autour de plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est très importante, qui est le rapport que l'élève, que l'adolescent a vis-à-vis de l'idéal de lui-même et la différence, éventuellement le décalage qui peut exister entre un idéal qu'il peut avoir et ses réelles capacités. Et quand un adolescent est, par exemple, déprimé, il peut sous-estimer ses capacités ou vivre l'idéal qu'il pense être celui de l'environnement d'une manière douloureuse. Et ça, c'est quelque chose qui peut fragiliser l'image de soi. De l'autre côté, un autre élément important pour construire l'image de soi, c'est la perception que l'adolescent peut avoir du soutien social, du soutien qu'il peut avoir autour de lui quand il est en difficulté. Et parfois, les adolescents en difficulté, en souffrance, ceux qui sont dans un mouvement dépressif, peuvent avoir du mal à voir qu'il existe des environnements, et il existe un entourage qui pourrait être une ressource d'aide, mais ils ont du mal à le percevoir. Et donc, cela fragilise l'image d'eux-mêmes, parce que ça les laisse un peu tout seuls gérer des difficultés qu'ils rencontrent dans leur parcours d'apprentissage. Et on pourrait dire que quelque chose qui est pour nous, pédopsychiatres ou psychologues de l'adolescence, très important, c'est quand un adolescent, il risque de saboter ses potentialités, ses capacités, par des comportements d'opposition, des comportements de désinvestissement ou d'impossibilité d'investir des apprentissages. Et ça, ce sabotage est pour nous un point d'alerte important auquel on est sensible et qui nous invite à être dans une démarche davantage d'accompagnement, voire d'orientation vers des soins.
Quels conseils pouvez-vous donner aux enseignants et à l'ensemble des équipes éducatives pour réussir à ce que ces jeunes s'épanouissent dans leur parcours d'apprentissage et dans leur parcours scolaire ?
Il est difficile de donner un conseil simple, mais probablement quelque chose qui est, de mon point de vue, extrêmement important, c'est de transmettre à l'élève le fait qu'on s'intéresse à lui. À lui en tant que personne, et pas uniquement en tant qu'élève, qui peut être éventuellement en difficulté, mais qu'on est intéressé à ce qu'il vit, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, et donc lui montrer une certaine curiosité. La curiosité de ce qui est son vécu, sa vie intérieure, ses difficultés, mais aussi éventuellement ses projets, ses espoirs, tout ce qui peut animer et nourrir le développement d'un adolescent. Et ça, c'est un élément important. Plus on manifeste une certaine curiosité à ce que l'adolescent vit, plus on est à même de l'aider. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est s'éloigner un peu du comportement tel qu'il est, les adolescents nous le manifestent. Et on évoquait l'opposition, un peu la provocation, parfois des comportements un peu hostiles ou de retrait, ces comportements que les adolescents peuvent manifester. Plutôt que se cibler sur ces manifestations extérieures, essayer de se questionner de quelles sont les motivations, les désirs, les besoins, les pensées qui sont derrière. Et donc, essayer de se syntoniser sur ce qu'est le vécu intérieur de l'adolescent. Ça, c'est une stratégie souvent très importante. Et les adolescents, cela permet de développer une certaine confiance dans l'adulte qui devient une source positive de changement. Il y a une notion qu'on utilise qui nous semble importante dans le domaine des relations entre élèves et enseignants, c'est la notion de confiance épistémique. C'est-à-dire, l'adolescent est en relation avec un enseignant et il lui fait confiance pour que ce que l'enseignant va lui transmettre est vraiment important. Et donc, au-delà du contenu, c'est la relation avec l'enseignant qui a une place importante comme véhicule des informations, des connaissances ou des apprentissages que l'enseignant peut transmettre. Donc, je pense que les enseignants sont bien conscients de l'importance du lien relationnel et de la relation avec l'élève comme moyen pour permettre de la création d'un environnement favorable à l'apprentissage. Mais c'est quelque chose qui est important de le rappeler, surtout chez des adolescents fragiles qui, à certains moments, peuvent facilement douter de la disponibilité de l'enseignant ou qui se sentent parfois non compris. Et ça peut être un lien avec aussi leur problématique à l'extérieur de l'école, évidemment, dans leur vie de tous les jours, que ce soit en famille ou avec les amis.
Alors, vous parlez du lien qu'il y a à mettre en place, à construire, à élaborer avec le jeune, mais quelle autre alliance peut tisser le professeur pour être accompagné lui-même dans cette inclusion ?
Alors, le monde scolaire est un monde où il y a beaucoup d'intervenants, à l'intérieur de l'école elle-même, mais aussi à l'extérieur de l'école. Avant tout, la famille. La famille est une ressource très importante, évidemment pour l'adolescent, mais aussi pour les enseignants, notamment quand l'enseignant s'inquiète plus que d'habitude. Quand il voit que ses tentatives de maintenir la relation travaillent sous cette curiosité, encourager l'adolescent à s'exprimer, à montrer ses qualités aussi en dehors uniquement de l'aspect lié à l'apprentissage, ben ces situations-là peuvent justifier que l'enseignant s'appuie sur d'autres interlocuteurs, et donc en premier lieu la famille. Je pense qu'il est pertinent que l'enseignant sollicite la famille quand il a l'impression que ses efforts ne sont pas suffisants pour comprendre l'adolescent et pour l'aider à reprendre un parcours d'apprentissage et d'intégration dans le contexte scolaire. Donc je trouve que solliciter les parents pour un travail collaboratif peut être très utile, et chacun peut donner des perspectives complémentaires sur l'adolescent. L'enseignant a vraiment une connaissance de l'élève dans une situation spécifique comme celle de l'école. Les parents ont d'autres perspectives, d'autres éléments qui peuvent être très utiles à l'enseignant pour avoir une image plus globale et plus cohérente. Et c'est important aussi pour essayer d'éviter des malentendus qui parfois peuvent se créer de façon involontaire, des erreurs de jugement d'un comportement, d'une situation. Et le dialogue est quelque chose d'essentiel pour essayer de dénouer de malentendus qui parfois s'accumulent avec un sentiment de frustration réciproque. Alors, les enseignants ont aussi un rôle important pour mettre un peu en alerte les parents d'un besoin, d'une souffrance, qui, notamment quand elle s'exprime de façon importante à l'école. Et les enseignants peuvent aussi encourager, inviter les parents à solliciter d'autres intervenants, d'autres interlocuteurs, notamment dans le domaine des soins, et inviter par exemple les parents à contacter un psychologue ou un centre médico-psychologique dont le rôle est de prendre en charge l'enfant et sa famille, essayer aussi d'accompagner l'adolescent et faciliter l'inclusion et l'intégration dans les contextes dans lesquels il est plus en difficulté. Et par exemple, le contexte de l'école peut être pour certains élèves vraiment un lieu difficile, un lien avec des difficultés scolaires, sociales, ou là où sa souffrance, sa tristesse, son anxiété s'expriment de la manière la plus évidente. Alors donc, les centres médico-psychologiques, les centres médico-psychopédagogiques sont des lieux où on peut adresser les familles, les adolescents. On peut également solliciter des psychologues en libéral. Et là, ce qui est important, c'est que l'école, en lien avec les parents, puisse avoir un réseau aussi d'intervenants. Parce qu'on sait que plus il y a des liens et des habitudes de collaboration, le mieux les choses se passent. La confiance se passe de personne à personne, et si l'enseignant, par exemple, a déjà eu une expérience positive avec un certain lieu de soins, mais plus facilement va transmettre aux parents cette confiance auquel les parents pourront s'appuyer.